Oui, le chasseur oriental. J'ai réfuté totalement ce qui...
Moi, c'est Céline de Combatie au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, d'Adrix et de Méprise Vivant, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue dans ces magazines d'échanges citoyens, paroles aux auditeurs. Le gouvernement de la RDC a signé samedi 6 août à Kinshasa un contrat de partenariat avec la société sud-africaine Sintel. Selon le ministère des Transports, cette collaboration permettra de moderniser le trafic routier en République démocratique du Congo, d'assurer une meilleure gestion du trafic routier, renforcer la gestion informatisée de la prévention et la sécurité routière, ainsi qu'améliorer les recouvrements au profit du gouvernement des contraventions routières. Certains observateurs estiment que cette collaboration va exactement améliorer ce secteur. Mais une autre opinion pense plutôt que ce genre d'initiative pouvait être laissée aux entrepreneurs locaux afin de favoriser l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Comment commentez-vous cette actualité? Rejoignez-nous au 081-890-7315 pour votre intervention en direct. Mais les débats, c'est aussi sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Mimi Kindou est à la mise en onde de ce programme réalisé par Nico Kalambay, qui est aussi au standard. Et Pierrot et la Meiji vous le présente sous la supervision de Julien Amouini. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur RadioCapi.net.
Rappelons que le coût global de ce projet est de 10 millions de dollars américains. Ce fonds a été préfinancé par la société Sintel. Elle se fera rembourser avec les recettes issues des contraventions routières et autres issues de la circulation routière. Du coup, le débat est lancé dans l'opinion. Certains observateurs estiment que ce genre d'initiatives pour la gestion de la sécurité routière ou d'autres initiatives peuvent être réalisées par les entrepreneurs locaux qui peuvent avoir de l'expertise dans la matière plutôt que recourir à des contrats avec des sociétés étrangères, et ceci dans l'objectif de pouvoir créer une classe moyenne et favoriser ainsi l'émergence de l'entrepreneuriat local. Voilà la question au centre de notre échange. Albert, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour Albert et bienvenue dans cet échange.
Radio Capi et bonjour à tous les auditeurs.
Et vous avez dit, oui, le partenariat c'est bon, mais l'idée de pouvoir renforcer l'entrepreneuriat local dans ce genre d'initiative, elle est aussi très importante.
Oui, oui, nous avons dit que le gouvernement congolais devait jouer son rôle de promouvoir les investissements de ses propres fils. Si lui ne reconnaît pas le savoir-faire des Congolais, qui pourra les reconnaître? Nous voyons plusieurs entreprises naître aujourd'hui et disparaître demain par manque de marché. Il aurait fallu au moins répartir les tâches vides, la grandeur de ces chantiers pour accroître la compétitivité des entreprises congolaises aussi.
Oui, Albert, mais est-ce que vous avez une idée aujourd'hui d'une entreprise, une initiative locale aujourd'hui qui a fait preuve dans différents domaines où l'État pouvait soutenir?
Oui, il y en a plusieurs. Prenons le cas de Panorama SRL qui a prouvé son expertise dans la vidéosurveillance et la sécurité électronique. Elle pouvait bien faire ce travail et satisfaire le gouvernement.
Et vous auriez souhaité voir le gouvernement soutenir ce genre d'initiative. Merci beaucoup, Albert de Kinshasa. Jeff, vous êtes à Kananga, au Kasaï central. Bonjour Jeff et bienvenue.
Bonjour à Radio Capi, bonjour à nos auditeurs.
Oui, vous avez abordé de la même manière sur la page Facebook en estimant que si l'État ne peut pas soutenir les initiatives locales, même pour des choses qui peuvent coûter pas beaucoup d'argent, ça sera difficile aujourd'hui que l'industrie locale puisse se développer.
Oui, effectivement, par rapport à l'initiative de notre gouvernement, je la trouve un peu sanitaire, mais au moins j'ai au moins deux propositions par rapport à ça.
Mm-hmm.
Il serait mieux que l'État fasse aussi confiance aux entreprises congolaises, et cela profitera aussi aux chômeurs de notre pays, particulièrement la jeunesse congolaise, qui confie cette importante charge à une entreprise sud-africaine qui ne donnera jamais des postes importants à nos chômeurs.
Mmh.
Soit, si le gouvernement trouve bon de déconseiller toujours en question à cette entreprise sud-africaine, que les postes de direction ou les bâtons de commandement soient coordonnés par un citoyen congolais suivi d'un sud-africain et cela vice versa. Tout ça en vue de privilégier aussi les intérêts de la population qui chôme.
Mmh.
Et c'est ça, point de ma contribution.
Merci beaucoup, Albert. Vous souhaitez que l'État peut penser à l'entrepreneuriat local, et même si jamais ce contrat avec Sintel est exécuté, il serait mieux que le travail soit fait d'une manière concurrente entre les Sud-Africains et les Congolais pour aussi donner l'emploi aux Congolais qui ont besoin de cela. Merci beaucoup. Mais nous avons en ligne notre invité, c'est Ricardo Kanyama. Vous êtes coach en éducation financière, vous travaillez dans la promotion de l'entrepreneuriat local. Vous avez écrit d'ailleurs un livre qui est très intéressant sur les performances personnelles et financières. Bonjour Ricardo et bienvenue dans cet échange.
Bonjour,
c'est Pierre. Et d'emblée, quand on écoute le point de vue des uns et des autres, on s'est dit 10 millions de dollars pour financer un travail qui doit être fait par une firme sud-africaine. Et les gens estiment qu'il y a aussi la possibilité de soutenir l'entrepreneuriat local, par exemple dans la vidéosurveillance, dans la sécurité routière, on pouvait le faire en soutenant l'entrepreneuriat local. Et vous dites que le problème aujourd'hui que nous avons reste d'abord au niveau de nos capacités, d'avoir aussi des entrepreneurs à qui on peut faire confiance et qui ont l'expertise dans les différents domaines pour les soutenir.
Oui, absolument, absolument, parce que c'est pas seulement ce que les auditeurs disent, mais c'est cela qui doit se faire. La politique nationale doit soutenir l'entrepreneur local, qui est le moteur même de l'économie.
Mmh.
Mais nous devons aussi reconnaître que parfois l'État veut des résultats, et que peut-être lorsqu'il ne trouve pas une entreprise capable de lui donner satisfaction, il peut recourir à une entreprise étrangère. Mais normalement, c'est sa responsabilité de soutenir et de promouvoir l'entrepreneuriat local.
Mais quand on regarde aujourd'hui dans le monde des startups, qu'on utilise les termes, que ce soit en télécommunication, que ce soit en informatique, il y a quand même beaucoup d'initiatives. Il y a un autre ami qui a évoqué tout à l'heure la vidéosurveillance avec des sociétés, des micro-sociétés locales qui existent. Mais la grande difficulté se trouve à quel niveau? Est-ce que ce sont des entrepreneurs qui ont des difficultés à présenter leurs projets auprès de l'État, ou bien c'est un déficit au niveau de la politique générale de promouvoir l'entrepreneuriat local?
Ok, moi je crois que le problème est beaucoup plus profond, parce que nous devons être loyaux et reconnaître que voilà, même l'État travaille déjà pour la promotion de l'entrepreneuriat local. Nous le voyons à travers toutes les mesures qui sont prises. Et la population a compris l'importance de l'entrepreneuriat local. Et nous comprenons aujourd'hui que c'est l'entrepreneuriat qui sera une solution pour trouver des solutions aux problèmes comme du chômage et tout. Mais notre pays a un problème plus profond, parce que l'entrepreneuriat n'était pas partie de notre culture depuis 1960.
Mm-hmm.
Si nous rentrons dans notre histoire, nous sommes un pays qui a été essentiellement formé pour des professions classiques. Nos universités, notre culture, nos politiques, et tout est fait en fonction de l'emploi et de l'emploi. Et c'est maintenant que les gens commencent à s'intéresser à l'entrepreneuriat lorsqu'ils n'ont pas, ils ne trouvent pas d'emploi, ou lorsqu'ils perdent son emploi. En fait, c'est comme des gens qui ont été formés en histoire et qui, du coup, parce qu'il n'y a pas de médecin, se retrouvent du jour au lendemain médecin. Et parfois, c'est là que se voit que des structures qui sont créées n'ont pas la culture la culture entrepreneuriale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toute une culture des affaires qui est très très, très importante, et parfois ces structures n'arrivent pas à donner satisfaction. Moi je pense que, je ne sais pas jusqu'où c'est vrai, mais peut-être que si l'État prend cette option, parfois il craint que ces structures locales ne soient pas en mesure de donner satisfaction. Alors pour créer la classe moyenne, il est très important, mais cette classe moyenne ne se crée pas seulement avec juste la création d'une entreprise. Il faut beaucoup plus pour faire réussir une entreprise, il faut beaucoup plus pour créer une classe moyenne que le simple fait de créer une entreprise. Donc, il y a ce problème-là, il y a l'insuffisance. Et maintenant, on doit s'y mettre, pas seulement à financer des projets, mais il faut former cette classe entrepreneuriale. Parce que notre classe entrepreneuriale ne parvient pas à aller beaucoup plus loin. Elle est limitée, mais je pense qu'elle est limitée par ses connaissances, et elle est limitée aussi par sa culture entrepreneuriale qui n'existe pas. Donc, ce sont souvent des entrepreneurs qui travaillent avec les esprits d'employés, et ça ne marche pas, parce que c'est deux mondes différents.
On regarde dans l'île, on va revenir à vous. Moi, c'est Bissim, on nous appelle de Bukavu, Voldi et Tamatadi. Trésor à Tundo est avec nous sur la page Facebook ici à Kinshasa. Je crois qu'on l'aura aussi en direct d'un moment à l'autre parce qu'il voudrait y intervenir en direct. Mais en attendant, il dit ceci sur la page Facebook. Ce n'est pas si mal la signature de ces partenariats, mais je me demande toujours pourquoi on n'aime que faire recours à l'expertise étrangère. La dame qui nous a fabriqué des robots roulages avait proposé la même chose, car ces robots auront des caméras de surveillance contrôlées par une centrale qui identifiera les plaques numérologiques des véhicules en contravention, en collaboration avec la contribution, pour arriver à faire obliger les propriétaires ou chauffeurs de ces engins à payer ces amendes comme dans d'autres cieux. Il serait mieux d'utiliser au moins les entreprises locales. Voilà, lui il a donné un exemple concret de robot roulage. Si on a d'autres témoignages, on pourra évoquer cela dans ces magazines. Amos, vous êtes à Bukavu, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour aux différents auditeurs de la radio de la paix. Nous sommes contents de ce sujet au studio, mais nous disons, nous avons tous suivi que notre gouvernement venait au fait de prendre ses initiatives et vouloir collaborer avec cette organisation sud-africaine pour voir comment améliorer le secteur du transport en République démocratique du Congo. Mais la grande question que moi je me suis posée est de savoir pourquoi nos autorités souvent parviennent à prendre de telles décisions sans pour autant analyser d'abord la réalité sur le terrain. Parce que si vous êtes analysé aujourd'hui au Congo, il n'y a pas de route. Pour ce qui est du domaine du transport, presque nous avons un problème tellement sérieux. Partout au Congo aujourd'hui, le transport cause un problème sérieux. Que ce soit dans le cadre du transport routier, il y a un problème sérieux. Que ce soit dans le cadre du transport fluvial, un problème sérieux. Même le transport aérien. Mais nos dirigeants ne tiennent pas compte de tout ça. Et ils veulent maintenant se comparer à un pays tellement développé comme l'Afrique du Sud. On veut se comparer à l'Afrique du Sud, un pays qui est valablement développé sur tous les plans. Moi, je me demande, même si on amène ces experts qui viendront de l'Afrique du Sud, qu'est-ce qu'ils peuvent faire au Congo dans un état où tout est à reprendre, tout est à faire aujourd'hui à la République démocratique du Congo. Je me dis, même si vous amenez ces gens, on les amène d'abord à Bukavu, dans ma province, où il n'y a aucune route. Il faut voir toutes les routes qui relient la province à d'autres provinces, aucune route n'est praticable. Même si on les amène, qu'est-ce qu'ils vont faire sur le terrain? Que ce soit même pour ceux qui ont du transport fluvial. C'est la même situation partout. Des accidents du jour au jour, des problèmes sérieux partout, mais nos dirigeants disent, voilà, nous voulons maintenant aller prendre ce trafic difficile qui vient travailler au Congo pour améliorer le secteur du transport. Moi, je pense que l'autorité devait d'abord se poser des questions. Est-ce que nous prenons le diapason avec l'Afrique du Sud pour qu'on aille amener une organisation de ce pays et qu'elle vienne travailler à la République démocratique
du Congo?
C'est de se poser la question.
Oui, allez-y, Amos.
Ok, une autre question qu'on peut se poser. Nous avons suivi que non, par rapport à faire l'action fiscale, nos autorités ne tiennent compte de la jeunesse au pays. Aujourd'hui, il faut d'abord voir les dégâts du chômage à la République démocratique du Congo. Pourquoi nos autorités ne cherchent pas à promouvoir les initiatives locales? tout Congo aujourd'hui, même si vous voulez entreprendre quelque chose, vous êtes d'abord bloqué par le pouvoir et le pouvoir ne peut pas vouloir vous encourager pour que vous parveniez à créer du boulot pour les jeunes qui cotisent dans le chômage aujourd'hui. C'est la même situation que nous avons dernièrement de Kiabouka. Le maire de la ville qui se donne l'audace d'aller amener une organisation rwandaise pour que cette organisation vienne gérer les immondices à Bukavu. Et pourtant, nous avons beaucoup d'organisations qui interviennent dans ce secteur-là. C'est là que nous comprenons que nous avons des dirigeants qui ne travaillent pas pour l'intérêt du peuple congolais, mais qui travaillent et qui travailleraient d'ailleurs comme des mercenaires. Parce que ce sont des mercenaires qui ne peuvent pas songer à la population qui sont en train de servir. C'est là que nous pensons que notre gouvernement doit d'abord, comme je l'ai dit tantôt, je pensais qu'il fallait d'abord qu'on revoie beaucoup de questions dans les domaines du transport.
Vous avez quand même deux volets dans votre intervention, Amos. Vous dites qu'il faut d'abord améliorer le secteur du transport lui-même en termes de routes, parce qu'il ne faudrait pas quand même qu'on confonde la capitale ou le chauffier de quelques villes, disons quelques villes avec l'ensemble des routes. On a un problème sérieux sur les transports. Alors, pour vous, c'est ça le premier problème. Le deuxième problème, c'est en ce qui concerne l'initiative locale. Et là, vous avez donné l'exemple de ce qui s'est passé à Bukavu, le maire de la ville qui a signé un partenariat avec une société rwandaise pour gérer les immondices à Bukavu. Alors, vous estimez qu'à Bukavu, il y a des gens qui sont capables, qui peuvent bien gérer ces immondices. C'est ce que notre invité disait tout à l'heure, mais est-ce que ces entreprises locales ont la capacité de pouvoir se défendre et maîtriser bien l'outil pour qu'on leur fasse confiance afin qu'ils puissent travailler dans ces différents domaines? Merci beaucoup. Voldy, vous êtes à Matadi, dans le Congo central. Bonjour, Voldy.
Oui, bonjour. Bonjour à l'invité.
Et est-ce que vous estimez que dans un domaine comme celui de la surveillance routière, on peut faire confiance à l'expertise locale, aux entreprises locales qui peuvent s'organiser à pouvoir aider l'État dans la gestion du trafic routier plutôt que signer un partenariat avec une firme étrangère?
Oui, si vous me le permettez, je vais vous demander un peu s'il y a moyen de revoir la façon de choisir les intervenants, parce qu'à chaque jour, j'ai fait d'appeler, mais souvent, ce sont les maîtres sans ville, Lubumbashi, Bintou, Kimpese, ce sont tous les gens qui passent souvent dans vos...
Mais vous êtes là aujourd'hui, ça dépend aussi à quelle heure vous appelez et à quelle heure vous vous êtes inscrit, Voldy, mais dis-moi aujourd'hui, vous avez appelé à la bonne heure et vous êtes là. On peut maintenant avancer.
Ok. Oui, moi je pense qu'il faut mieux de faire confiance aux entrepreneurs locaux. Car ceux qui viennent de l'Afrique du Sud ont leur réalité. Les infrastructures qui se trouvent en Afrique du Sud ne se trouvent même pas au Congo.
Mm-hmm.
Alors quand ils viennent, ils vont se confronter à de nombreux problèmes et tout, ils vont se bloquer à la fin. Pourquoi au Congo, quand il y a des problèmes, on cherche toujours à appeler des gens. Dialogue, on cherche Kojo arrive, il est bloqué, il a ses plus, il essaie de comprendre ce qu'il doit faire. Il faut chercher des gens qui se trouvent au pays, qui connaissent mieux les réalités de notre pays. Ils n'ont pas de moyens. Pourquoi on a créé les PME? Financer, même donner les moyens pour qu'ils puissent travailler, pour donner des bons résultats. Mais on donne des moyens aux ministres, aux députés qui n'en font rien, qui les mangent et ne les poursuivent même pas. Donc moi, j'aimerais qu'on donne ça aux locaux pour mieux travailler et qu'ils savent, comme a dit mon prédécesseur, que la madame qui a fabriqué les robots, pourquoi pas lui demander? Il n'y a pas moyen de faire ça. Il est prêt à le faire aussi. C'est pour promouvoir aussi le travail. Les associés d'Afrique vont venir, ils vont amener même les chauffeurs sud-africains. Mais ils vont balayer les bureaux sud-africains. Et nous, les Congolais, on reste toujours à chômage. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Voldy. Vous avez dit qu'il faut éviter chaque fois de recourir à l'expertise externe pour gérer ces genres de questions. Vous avez donné l'exemple, comme le disait tout à l'heure, trésor de Kinshasa, qui est la dame qui a fabriqué le robot. Cela est revenu deux fois, je crois, dans ces interventions. Pourquoi ne pas financer ou bien soutenir ces genres d'initiatives plutôt que recourir à l'extérieur, parce que vous avez peur que la plupart des main d'œuvre qui soient utilisées par cette entreprise puissent être des étrangers, alors que les Congolais ont besoin du travail. Mais notre invité a insisté beaucoup sur la maîtrise, même la culture de l'entrepreneuriat, peut-être qu'il fait défaut dans notre pays pour qu'on fasse confiance aux entreprises locales. Merci beaucoup. Mais nous avons aussi en ligne professeur Bob Kirongozi. Bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour monsieur.
Mais vous avez suivi les uns et les autres, vous intervenez aussi parce que quand on parle de la sécurité routière, il y a des auditeurs qui ont évoqué tout à l'heure, qui ont parlé en termes de la dame qui a fabriqué le robot. Je crois que vous avez travaillé dans ce projet. Pourriez-vous nous parler un peu, en bref, la naissance du projet parce qu'il touche à la sécurité routière, et puis après on pourra voir de quelle manière cela pouvait être exploité par l'État congolais.
Merci monsieur.
le projet robot ou roulage intelligent est parti de façon la plus simple. Hein. Vous savez, quand quelqu'un qui est intéressé par la création de richesses vit son quotidien, son travail, bon, il a plein d'idées qui lui passent par la tête. Bon, il y a aussi des opportunités, des hasards. Alors, il est vrai que Madame Thérèse Hilaire-Girongo, mon épouse, est très sensible par rapport à la question du génie créateur congolais, parce qu'elle a été elle-même élève à l'ISTA, à l'Institut supérieur technique appliquée Ndolo. Alors, évidemment, en conversant avec moi, il est apparu qu'on devrait faire quelque chose pour sensibiliser autour de nous. Enfin, moi-même, je suis professeur d'économie à la faculté des sciences sociales à l'UICIN, donc sensibiliser, y compris dans le milieu étudiant, dans le milieu parmi nos amis, parmi les institutions de l'État, sensibiliser aux questions de la créativité congolaise qui est inévidente. Bon, pour revenir à la naissance même du projet robot, un jour je me trouvais dans le Bas-Congo, à Boma, j'ai eu la surprise de voir un jeune homme qui est venu me présenter un objet, c'est une réplique, pas un jouet, plutôt un jouet, une réplique d'un véhicule, une Hammer H2. J'étais surpris de voir la qualité de cet objet-là. Je lui ai posé la question de savoir si il a acheté, à quel endroit, et au commerce à côté. Il m'a dit non, mais j'ai pas acheté, professeur, je l'ai fabriqué moi-même. J'ai une surprise totale. Et vous avez été capable de fabriquer cela, vous? Ouais. Bon, je me suis dit, il a certainement utilisé du matériel de récupération, fait de la récup, comme on dit ailleurs. Alors j'ai dit, bon, si vous êtes capable de faire ça, je crois que vous êtes un génie. Alors, je lui ai demandé de mettre son nom sur l'objet, et je l'ai ramené à Kinshasa. Alors, en présentant à mon épouse, qui est très technique, nous nous sommes dit, dans ce pays, il y a de la créativité, il y a du génie technique, on doit pouvoir insister là-dessus. De fil en aiguille, un jour, mon épouse m'a soumis le projet d'organiser dans son école, l'ISTA, une foire du génie créateur congolais. Bon, je l'ai encouragé, j'ai encadré avec mes conseils. Elle m'a dit, mais tu sais quoi, j'ai appelé ici à Kinshasa le jeune homme qui t'a vendu un jouet à Boma. Nous l'avons logé pendant un temps et nous avons, mon épouse a pu organiser avec le concours évidemment un certain nombre de partenaires, l'école elle-même ainsi que quelques ministères et des amis et nous-mêmes, nous avons organisé la foire du génie créateur congolais, la première à l'ISTA. Nous avons invité comme participants quelques jeunes qui ont fabriqué des objets de toutes sortes. Ça allait de la fusée aux jouets qu'utilisent les enfants, etc. Des choses, des objets tout à fait ingénieux. Et là, nous avons pu rencontrer un autre jeune homme qui avait fabriqué un jouet qui avait la forme du robot, avec deux pieds et des bras, etc., en bois, comme le garçon de Boma. Autrement dit, c'est une très bonne chose. Je crois que ce qu'on doit faire, c'est former une équipe pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer ce qu'on est en train de voir autour de nous. Alors, nous avons financé, j'ai accepté qu'on finance cette opération. Mon épouse a conduit l'équipe. Nous avons recruté d'autres personnes pour participer à l'aventure. Et c'est ainsi que naît le robot roulage intelligent.
Mais à ce niveau, le robot roulage intelligent a été utilisé parce que nous faisons le débat sur la promotion de l'entrepreneuriat local. Tout est parti du contrat de collaboration entre la RDC et Sintel en Afrique du Sud autour de la gestion des questions routières. Mais est-ce que dans ces projets, vous avez eu des discussions avec le pouvoir public pour voir comment ce projet pouvait être soutenu et qu'il soit vraiment utile dans la sécurité routière aujourd'hui dans notre pays?
Ah oui, très bien, monsieur. Vous pensez bien que j'ai J'ai contacté des partenaires, enfin des amis du gouvernement, des amis de la télévision, et c'est elles, ce sont ces personnalités-là qui ont été les premières à être informées lorsque nous avons mis sur pied un prototype. Je me souviens que c'est au cours d'une cérémonie officielle à Kinshasa que j'ai présenté le projet au gouvernement provincial de Kinshasa. Bon, moi je crois que, comme a dit l'autre auditeur là, il y a un problème de culture d'entreprise, enfin de culture qui a sans doute fait que on est prêt pas très attention à ce que j'ai présenté là. Bon, nous n'avons pas fléchi, nous avons continué à performer l'outil, nous avons continué à faire la ronde de l'administration, du ministère de la Recherche, le gouvernement, dans les ministères concernés, etc., que ce soit au niveau provincial ou au niveau national, mais nous n'avons pas eu une grande écoute de leur part. Sans doute qu'ils étaient préoccupés par d'autres problèmes, et sans doute aussi qu'ils ne comprenaient pas très bien à quoi cet objet allait servir. Alors, évidemment, ben, je pense qu'ils ont, ils sont quand même intervenus parce qu'ils ont accepté que l'expérience soit vécue à l'air libre, comme on peut dire. Alors, on quitte le laboratoire pour l'expérimenter sur la place publique qui est exceptionnelle là, dans, en matière de création de technologies. Normalement, on le fait dans un atelier, tout est secret, pendant des années, on s'y bat, et puis finalement, on va avoir des homologations. Mais ici, je remercie et je félicite la ville de Kinshasa, ainsi que le gouvernement central, d'avoir accepté que le robot soit dans la rue et qu'il fasse ses preuves dans ce que nous y avons.
Alors, on va vous redonner la parole tout de suite parce que je vois Trésor qui nous appelle de Kinshasa. Et quand vous allez revenir, c'est juste pour dire les difficultés. Est-ce qu'aujourd'hui, formellement, y a-t-il moyen de pouvoir signer un partenariat avec le pouvoir public? Parce que là, les gens souhaitent que ça soit. Ils ont cité ces projets. Mais on va revenir à vous rapidement, les temps que la réalisation vous garde. Trésor, vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Bonjour Trésor.
Oui, bonjour monsieur.
Je lisais tout à l'heure votre réaction sur la page Facebook, et alors au-delà du fait que il faut améliorer la sécurité routière, mais il faut aussi revenir sur ces débats lancés par certains observateurs autour de la promotion de l'entrepreneuriat local. Quel est votre point de vue par rapport à ça?
Oui, moi je pense que c'est bien parce que déjà j'ai vu au moins l'initiative du gouvernement central par rapport à ces partenariats qu'il a signé avec l'entreprise sud-africaine par rapport à la sécurité routière. Mais sinon, moi, j'étais en train de voir, parce que c'est bien au moins de signer les partenariats, mais au niveau local, nous avons également au moins beaucoup d'initiatives que nous pouvons encourager qui vont peut-être aller dans le même sens seulement avec ce que nous avons déjà par rapport à ce que nous appelons au moins sécurité routière. Parce que par rapport à cette surveillance, moi j'étais en train de rire. Ben, si vous lisez bien mon intervention que j'ai fait au moins sur la page Facebook, j'avais parlé au moins de robot roulage, qui est également, c'est une initiative purement locale, qui est pour promouvoir au moins la classe moyenne dans notre pays, parce que sinon si on arrive déjà à promouvoir au moins ces robots roulage, nous allons permettre à ce que qu'il y ait déjà des caméras de surveillance qui vont permettre à ce que qu'on puisse déjà contrôler au niveau de la sécurité routière et comprendre au moins quels sont les agents qui commettent au moins des contraventions et arriver au moins à ce que l'État puisse intervenir par rapport à des amendes qui l'État au moins taxé. Mais tout ça, je parlais même que ça devait se passer en collaboration avec la contribution qui également doit nous mettre à disposition au moins les plaques numérologiques qui vont permettre à ce que ces contrôles puissent se passer au moins d'une façon automatique, sauf que nous puissions au moins gagner quelque chose, parce que investir dans ça, ça permet également ce que l'État puisse gagner. Et sinon, aller seulement à l'étranger, au lieu de promouvoir au moins sur le plan national, que nous sommes capables de le faire, parce que la preuve est là, pour avoir le rebond au relâche, mais sinon il faut seulement accompagner cette initiative nationale, que ça puisse au moins aller de l'avant, et permettre à ce que ça puisse atteindre au moins tous les niveaux, pas seulement se limiter au niveau de Kinshasa, mais sinon permettre à ce que ça puisse atteindre tous les coins, et motiver au moins que cette initiative puisse être contrôlée par les centrales de surveillance, et également, à chaque fois qu'il y a des contraventions qui sont commises, et permettre à ce que nous puissions nous poursuivre.
Voilà, c'est ce qui est même défini dans le programme avec la firme Sintel de l'Afrique du Sud. Merci beaucoup.
Oui, oui, c'est pourquoi moi je vois qu'il n'y a pas de différence. Alors pourquoi pas
recourir à l'Afrique du Sud plutôt que le faire, parce que c'est la même chose. On revient rapidement à vous, professeur Bob Kirongozi, avant de vous libérer. Mais dès lors que le gouvernement a signé un partenariat avec une firme sud-africaine, pensez-vous aujourd'hui que le projet robot est intelligent a-t-il encore les chances de survivre si jamais les mêmes matières vont être exploité par une firme étrangère aujourd'hui?
Merci monsieur. Je crois que le gouvernement devrait comprendre que ce que fait le robot roulage intelligent, les Sud-Africains ne sont pas capables de le faire. Le robot roulage intelligent, comme vous l'a expliqué certainement par celle qui importe, qui dirige le projet, est un projet qui va au-delà de la simple surveillance avec des caméras, etc. C'est qu'il y a de mieux dans la sécurité routière, dans la régulation routière et dans la surveillance du territoire national. Je crois que là, le gouvernement devrait comprendre. D'abord, le gouvernement a signé, mais il arrive aussi que le gouvernement puisse faire marche arrière après avoir compris qu'il s'est trompé. Voilà, j'ai confiance que cette fois-ci, ça pourra peut-être être le
cas.
C'est bien d'avoir. Il faut connaître des dirigeants qui arrivent à dire bon, je me suis trompé, j'ai pas analysé le problème comme il a été posé par cette entreprise congolaise, parce que le gouvernement a entre ses mains le projet, un projet de convention. Nous l'avons élaboré et nous sommes en discussion avec le gouvernement pour le faire aboutir. Bon, la surprise a été grande de voir que ces personnes ont pu convaincre le gouvernement de signer celui-là. Alors là, c'est un sérieux problème pour le pays. Hein. Vous savez, le recrutement des dirigeants du Congo, il pose des problèmes. Ce sont des recrutements, c'est un recrutement qui est fait pas toujours en suivant
le principe de taxation des marchés comme ça
fait la rationalité de la force.
Voilà.
Le recrutement de cousins, de frères, etc., qui n'ont pas beaucoup de compétences.
Merci beaucoup,
M. le conseiller ou ministre. Que voulez-vous qu'ils fassent? Ils sont pas assez outillés pour avoir une approche stratégique du développement du pays, qui, comme beaucoup le disent ici, ne peut être que basée sur l'initiative locale.
Merci.
Aucun pays au monde n'a été développé en partant des ressources qui proviennent des étrangers, que ce soit des ressources humaines, financières, techniques, technologiques, etc., ou historiques, culturelles. Tous les pays du monde, depuis l'Angleterre, qui est le premier pays à être industrialisé dans l'histoire de l'humanité, jusqu'aux États-Unis, jusqu'aux pays émergents.
Merci beaucoup.
Utilisez les ressources locales. Et moi, je voudrais que dans ce pays, qu'on aille vers ces gens.
D'initiative. Merci beaucoup, professeur Bob Kirongozi, de nous avoir éclairé autour de ce projet robot intelligent, parce que cela entre en ligne des comptes dans notre débat au sein de l'entrepreneuriat local, hein, dans, par exemple, en cette matière des sécurités routières. Maître Matata, vous êtes à Mombasa, vous gardez la ligne, on va revenir à notre invité tout à l'heure. Je rappelle, les contacts pour intervenir en direct, c'est 081-890-7315, partant de la signature entre l'État congolais et la firme sud-africaine Sintel du partenariat pour la gestion de la sécurité routière. Certains observateurs estiment que ces genres d'initiatives pouvaient être aussi laissés aux entrepreneurs locaux afin de favoriser l'émergence d'une classe moyenne. Que pensez-vous de cette proposition? Vous pouvez nous joindre à ce numéro.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kelly Kouté sur Radio Capi.
Ricardo Gagnamo, vous avez suivi les uns et les autres. Quel est votre point de vue par rapport à ce qui venait d'être dit par les auditeurs ainsi que le professeur Bob? Ricardo, vous êtes avec nous? Là, on a le petit, des petits soucis des lignes. On pourra recontacter notre invité des moments à l'autre. Pacifique Kizungu nous a écrit. Nous devons prendre l'exemple même de l'Afrique du Sud, de la Chine, de l'Arabie Saoudite, qui, leur gouvernement, ont financé les bourses d'études pour la spécialisation dans un domaine déterminé. Au retour, les étudiants qui sont partis étudier à l'étranger, ils sont entrés dans leur pays pour pouvoir développer les entreprises locales. Mais au contraire, dans notre pays, on n'a pas cet esprit de pouvoir soutenir des chercheurs, des universitaires, afin qu'ils puissent se créer localement, mais on a tendance déjà à recourir à l'extérieur avec le système de la pauvreté que nous avons. Maître Matata, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Pacifique.
On vous écoute, maître.
Merci beaucoup, monsieur Gier, de m'accorder la parole. La question que moi je me pose, monsieur Gier, pourquoi notre gouvernement cherche toujours à recourir à la main-d'œuvre internationale étrangère? C'est-à-dire, la main-d'œuvre étrangère coûte moins cher que la main-d'œuvre locale. Ça, c'est la question que je me pose toujours. Or, aujourd'hui, nous avons les problèmes de chômage qui se font au Congo. Pourquoi ne pas favoriser la main-d'œuvre locale et de recourir toujours à l'étranger, au moment où la main-d'œuvre étrangère coûte plus que la main-d'œuvre locale? Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, la question que je me pose encore, chaque jour, on se dit que nous sommes un pays potentiellement riche. Est-ce que c'est les moyens qui nous manquent ou bien c'est la main-d'œuvre qui nous manque pour chaque jour faire recours et à la main-d'œuvre étrangère, à la main-d'œuvre étrangère. Au moment où, auparavant, M. Gérard, nous voyons, on était en train de vivre ici avec l'office des routes. Aujourd'hui, vous savez, M. Gérard, le transport est en première position. Avec les 5 chantiers du président de la République, s'il prenait seulement les chantiers transport en même, M. Gérard, c'est quoi? Le chantier là devrait développer. L'agriculture devrait développer d'autres chantiers, monsieur Gérard, parce qu'aujourd'hui, s'il y a de bonnes routes ici au Congo, les agriculteurs auront les moyens d'évacuer leurs produits agricoles vers les grands centres. On va aussi créer la main-d'œuvre, puisqu'on vivait les problèmes du système de cantonnage manuel. On occupait les villageois, puisqu'on donnait de tel village à tel village, on recrute les jeunes gens qui s'en chargent de l'entretien de leurs tronçons. Aujourd'hui,
voilà, on a des petits soucis avec Maître Matata. Mais Maître Matata, vous l'avez dit, vous souhaitez vraiment que l'État congolais puisse recourir à l'expertise locale, parce que là, vous dites que chaque fois, quand on recourt à l'étranger, ça va coûter plus cher. Et parce que vous avez évoqué des montants, mais rappelons quand même que Rudy Tabalo, qui nous a écrit de la ville de Lubumbashi, dit ceci: améliorer exactement le secteur du trafic routier dans la ville, province de Kinshasa. Je ne partage pas cette opinion parce que la mentalité congolaise en général et chinoise en particulier est différente des Sud-Africains, Français et Belges, où la Sintel a fait ses expériences. Par manque d'expertise, on peut se confier à l'expertise étrangère, mais je me pose la question de savoir ce qu'a fait notre gouvernement avec le projet robot intelligent, une innovation congolaise des ingénieurs formés à l'ISTA, Women Technology, et un partenariat signé pour un coût global évalué à 10 millions de dollars. Cependant, un spécimen robot intelligent ne coûte que 20 000 dollars. Je conclue en disant qu'il fallait plutôt laisser cette initiative aux entraîneurs locaux afin de favoriser l'émergence d'une classe moyenne. Et je crois que notre invité est avec nous, Ricardo Cagnamo, vous êtes avec nous maintenant, c'est bon, bonjour. Voilà, on était déjà avec vous, on vous a perdu tout à l'heure. Alors, quel est votre point de vue par rapport à ce qui venait d'être dit par les compatriotes?
Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les points de vue des compatriotes, c'est vraiment très constructif, parce que tout le monde comprend et va dans le sens de dire qu'il est important que l'accent soit mis sur l'importance de soutenir notre entrepreneur local. Et ça, c'est juste, ça se fait partout dans le monde, parce que on soutient l'entrepreneur local, en fait, on crée des richesses, et puis on met des richesses dans les pays, et ce sont ces richesses qui vont rester au niveau de l'économie, au lieu que les richesses sortent constamment. Vous voyez maintenant les pays qui sont axés sur les matières premières, avec la baisse des coûts des matières premières, nos économies sont en train de s'effondrer. Et si on avait une entrepreneuriat local, l'entrepreneuriat local très efficace, cela pourrait être compact. Donc, je suis de leur avis qu'il faudrait vraiment soutenir et donner priorité à l'entrepreneuriat local. Cependant, nous ne savons vraiment pas quelle a été l'analyse, parce que je me dis, nous devons aussi apprendre à faire conscience des idées. Moi, je pense qu'ils ont eu à évaluer. Est-ce que dans ce l'objet des robots intelligents à mesure d'être capable d'atteindre cet objectif, parce que n'oubliez pas que la technologie est étrangère. Parfois, peut-être l'objectif, c'est d'amener d'abord cette technologie étrangère pour que nous soyons capables de l'étudier et de l'intégrer. Je me dis peut-être que ça, c'est un projet pilote au niveau de Kinshasa, et que peut-être que ce projet va s'étendre partout au niveau de notre République. Il nous appartient de faire vraiment des analyses pour savoir pourquoi notre gouvernement, dans ce cas précis, a priorisé de donner le projet à une compagnie étrangère plutôt que...
Mais si c'est ça, vous avez suivi le prof Bob qui a dit tout à l'heure que le projet est sur la table du gouvernement, peut-être qu'ils étaient encore en discussion. Notre ami qui semble bien maîtriser encore, c'est Rudy qui nous a écrit tout à l'heure, qui dit le projet est évalué à 10 millions de dollars, mais quand on regarde le besoin, par exemple, pour un robot intelligent, 20 000, et on a appris d'ailleurs, quand on a suivi ça plusieurs fois dans le média, que la société qui a qui a fabriqué ces robots intelligents avait sollicité à peine 3 millions de dollars auprès du gouvernement pour pouvoir comment développer cela avec presque toute la technologie, les caméras de surveillance et tout cela, que ce n'était pas à mesure. Et c'est pourquoi j'ai demandé tout à l'heure au professeur Bob, n'est-ce pas là que quand vous avez un projet et vous êtes en discussion avec le pouvoir public et que le pouvoir public recourt à une autre firme, automatiquement, ça peut décourager non seulement ceux qui l'ont déjà fait, peut-être aussi les autres qui ont les idées de pouvoir innover et qui vont se dire, mais écoutez, à quoi va me servir aujourd'hui d'aller auprès du pouvoir public pour présenter mon projet, de leur vœu, ceux qui l'ont déjà présenté avant, ça n'a pas été pris en contact. C'est aussi ça, la paire de manches.
Oui, évidemment, ça crée la démotivation générale. Si réellement que les robots intelligents fabriqués dans notre pays, ce qui est une grande initiative et motif de fierté, et peut faire ce genre de travail, et que le gouvernement peut faire ce travail à moindre coût et atteindre le même résultat, mais que le gouvernement a préféré une entreprise étrangère, ça, effectivement, ça va décourager notre... et ça décourage tout le monde, donc ça décourage l'initiative locale. Mais moi, je me demande sur quelle base, sur quels critères le gouvernement a choisi l'entreprise sud-africaine. Est-ce qu'il y a eu une confrontation? Est-ce qu'il y a eu appel d'offres? Est-ce qu'ils ont pu défendre et démontrer? Parce qu'il faut convaincre. Vous savez, quand vous avez un projet, le projet peut être bon, mais votre capacité aussi à convaincre, à montrer, c'est bien fondé. Parce que là, par exemple, les gens disent que voilà, les robots coûtent 20 000 dollars, alors que les projets de 10 millions de dollars, mais il n'y a pas que les robots. Il y a la capacité de gérer les centrales, il y a la sécurité, il y a les compétences, il y a beaucoup d'autres choses, et que peut-être on pouvait aussi dire que les deux sociétés peuvent travailler en partenariat, parce qu'on ne peut pas seulement dire que cette société, on l'a pris comme ça en affaire. Nous savons pour les gens informés que la technologie sud-africaine est nettement plus développée que notre technologie. Et puis je vous donne un exemple. J'ai demandé un petit travail de montage de vidéo à une entreprise locale. Ils m'ont facturé un coût qui coûtait beaucoup plus cher que les défaire en Afrique du Sud, avec un partenaire congolais qui est en Afrique du Sud. Et le travail qui a été fait a été nettement de très mauvaise qualité. Donc on a dû recommencer. C'est parfois, les gens ils le disent, mais ils ne sont pas toujours à mesure d'être à la hauteur de réaliser un travail.
Et d'ailleurs, vous avez aussi évoqué cette autre paire de manches, que si ça pouvait peut-être se faire en partenariat, on pourra voir avec les temps quand tout sera déjà opérationnel. Mais l'idée aujourd'hui, comme nous l'avons fait, comme vous l'avez dit dans notre échange, c'est de pouvoir encourager le travail local. Nassor, vous êtes à Kindu. Bonjour, Nassor.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Pour moi, je crois que c'est une démarche qui est dégénérée. Donc, quand est-ce que nous allons protéger notre secteur local? Quand nous dépendons toujours des mains étrangères, pourquoi ce sont des la RDC? Pourquoi de ne pas donner ça aux petites entreprises congolaises? Et d'ailleurs, ça coûte cher plus que de notre secteur local. Vraiment, pour moi, ce n'est pas une bonne démarche.
Une bonne démarche. Pour vous, vous souhaitez qu'on puisse donner à l'entrepreneuriat local. Merci beaucoup, Nassor Moussa. Docteur Richard, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Thierry. C'est à tout le monde qui a parlé. Je voudrais, moi, réagir contre ce que je venais d'entendre. J'ai entendu un intervenant dire ce n'est que maintenant qu'on est en train de parler de l'entrepreneuriat. Et j'ai fait la lecture de quel Congo? Je donne la réponse. Vous savez que le quartier Foucault-Bel signifie fonds de commerce belge. C'est avant 60 que ce fonds a été monté et il y a eu des bénéficiaires de ça. C'était l'entrepreneuriat, c'était pour booster la classe moyenne. Et parmi les bénéficiaires, il y avait beaucoup plus de Bazombo que des Congolais. Il y a même une famille que j'aime bien, que j'embrasse. Hein? Mais écoutez, cette famille Bazombo, il est famille à nous. Ok? Et les Congolais avec qui nous. Donc celui qui dit ça, c'est de quelle époque? C'est ça. Mon propre deuxième papa, enseignant de l'école primaire, avait une boutique pour ma mère. Le fonctionnaire ne pouvait pas travailler. La boutique s'appelait Koboufafre, c'est-à-dire Poire de la Bouffe familiale. Ma mère avait la boutique normale, plus le dépôt de Polar et le dépôt de Pepsi Cola et de Very Good. Mon ami, c'était avant l'indépendance. Bon, celui qui a dit l'entrepreneuriat, je ne sais pas quoi.
Vous êtes en train de contradiction avec notre invité qui a dit qu'il y a un problème de culture de l'entrepreneuriat, c'est ça?
Oui, mais l'entrepreneuriat n'a pas commencé aujourd'hui. Peut-être que le vocable a émergé maintenant, mais l'entrepreneuriat a commencé depuis l'aube des temps. Ma propre maman, elle est encore vivante en Chili. Elle a appris à fabriquer le gari auprès des femmes popo pour mettre dans sa boutique. Ce n'était pas l'entrepreneuriat. C'est ça le gros problème. Le problème qui est là, c'est là où je soutiens le professeur qui est passé. Dans les systèmes d'enseignement, on n'en parle pas. On vous enseigne, par exemple, le palmier à huile, on s'arrête là. On ne vous dit pas quelle est la valeur des rameaux qui peuvent vous donner des palais, quelle est la valeur de fleurs qui échouent là, qui peuvent vous donner les mungabasendi. La valeur de noix palmiers et surtout de la coque de noix palmiers. Le Congo exportait ça comme source d'énergie. Mais qu'est-ce que les gens veulent? L'université ne parle pas de ça. L'université, ça, je félicite et salue le professeur Lubini, qui dit, nous déplorons les chômeurs parce qu'ils veulent l'être. C'est ça.
Mais professeur, docteur Richard, s'il vous plaît, vous l'avez dit, si l'université forme, on voit des cas aujourd'hui qu'il y a de jeunes gens, que ce soit à l'université de Kinshasa, que ce soit à l'ISTA ailleurs, qui ont fait, ils ont innové. Quand on regarde chaque fois l'exposition organisée par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire depuis du temps du ministre Machako, on a fait quand même beaucoup d'initiatives, mais ces initiatives se butent au manque de financement, manque de politique au niveau peut-être du pouvoir public pour les aider à émerger, à pouvoir aussi et utiliser les technologies pour la consommation locale, mais pourquoi pas aussi pour l'exportation.
Mais justement, le pouvoir public donne de l'argent aux professeurs danseurs de Massy, hein, 20 millions de dollars de SPI, mais ne donne pas à cet étudiant qui a mis au point une machine. Les femmes de Burkina, je vais utiliser un vocable simple, plantent les champignons et les exportent. Et les femmes du Congo, notre université est encore au stade expérimental de la production des champignons sur Bac. C'est ça le grand problème.
Mm-hmm.
Donc nous sommes tellement en retard qu'on croit que le vocable qui émerge aujourd'hui, c'est nouveau. Non, nous sommes en retard dans beaucoup de choses.
Nous sommes en retard et alors il faudrait aujourd'hui investir sérieusement à soutenir l'entrepreneuriat local parce que vous l'avez dit, il existe depuis la nuit des temps. Nous restons à Kinshasa avec vous, Félicien, bonjour.
Merci.
Félicien, vous êtes avec nous. Merci, docteur Richard, oui. Félicien, vous êtes avec nous. Bon, on a des petits soucis des lignes avec Félicien, on pourra les récupérer. Il y a Pacifique qui nous a écrit, qui a dit tout ceci. Les ministres doivent éviter de se contredire. Ceci en référence au projet emploi des diplômés du ministère ayant dans ses attributions le travail et la prévoyance sociale. Alors que ce sont des diplômés universitaires, ingénieurs, qui sont en train de chômer, qui doivent être financés. Ils conçoivent des projets qui pourrissent dans des bibliothèques des universités. Je préconise une collaboration interministérielle et une création d'un marché d'exposition et vente des projets au lieu de se référer à l'étranger pour ces genres d'initiatives. Emery Mwanampanga, certes, l'idée est bonne, mais faisons la part des choses. Si les États tiers nos appuient sur les plans sécuritaires et militaires, c'est un partenariat, alors que s'ils, ces derniers, le font dans le cadre de la consolidation des principes démocratiques, c'est l'ingérence, la mise en cause de la souveraineté nationale. Mais nous devons savoir qu'il existe aussi une gouvernance mondiale et les échanges d'expériences sont permis qui font, à travers la flexibilité externe des États, un retard technologique comme le nôtre. Mais on peut aussi le faire en renforcement des capacités de ce qui est fait localement dans notre pays pour le soutenir. Pacifique, vous êtes à Goma, dans la province du Nord Kivu. Bonjour Pacifique.
Et bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs. J'aimerais justement intervenir par rapport au message que j'ai trouvé sur votre page Facebook. L'initiative que le gouvernement a prise par rapport au contrat sud-africain est totalement une bonne initiative, mais nous nous encourageons plus d'être au niveau de notre université, de notre université plutôt, parce que notre gouvernement normalement doit penser aux étudiants, aux jeunes étudiants qui finissent et qui sont toujours en chômage. Lorsque on fait des signatures, des contrats de telles initiatives au niveau de l'étranger, c'est un manque à gagner du point de vue de notre gouvernement et de notre pays en général. Et donc, nous avons des étudiants qui finissent au niveau des universités et créent toujours des projets de développement, des projets qui peuvent améliorer notre économie. Mais malheureusement, notre gouvernement ne se soucie pas de ses étudiants. Or, ces étudiants devaient présenter des bons projets, des belles initiatives, comme par exemple l'auditeur qui a intervenu avec le projet robot qui a été fait au niveau de l'ISTAC, Kinshasa. C'était une bonne initiative, mais on ne l'a pas encouragé. Si on encourage ce genre d'initiative, notre pays peut développer un système-là de travail et par rapport aussi au projet diplômé, emploi diplômé plutôt, que le ministre du Travail et Prévoyance Sociale a soulevé la fois passée. Je pense très bien que avec cette collaboration interministérielle que j'ai soulevée, peut donner quand même de bonnes solutions.
Et d'ailleurs, c'est comme le disait tout à l'heure, docteur Richard, qu'il ne faudrait pas plus former des gens qui doivent demander de l'emploi, mais c'est qu'ils doivent créer l'emploi eux-mêmes. Et c'est pour cela qu'on encourage ces genres d'initiatives, pourvu aussi qu'on mette des moyens, parce que vous êtes revenu abondamment sur ces projets robots intelligents, parce que ça a été évoqué dans cette émission abondamment, autour même de la sécurité routière. On reste ici à Kinshasa, je crois qu'on retourne à Kinshasa avec vous Félicien, tout à l'heure on vous a perdu. Bonjour Félicien.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs et bonjour aussi à l'invité.
Et par rapport à ces domaines d'encourager l'entrepreneuriat local, c'était partie de ces contrats à signer. Et vous avez dit sur la page Facebook, ça fait longtemps qu'on a tendance à développer cette culture de la main tendue. Mais alors concrètement, qu'est-ce qui doit être fait pendant cette période pour encourager ceux qui travaillent localement à pouvoir plus développer leurs technologies?
Oui, mais pour 56 ans après l'indépendance, c'est pas normal qu'on commence toujours à recourir à des expertises extérieures sans se soucier de ce qui se développe dans votre pays. Dans ce pays, avec la vie misérable que nous menons, vous trouvez des gens qui sortent du lot, les cas que vous êtes en train de citer là, les robots. Quelqu'un qui n'a même pas encore résolu le problème du manger, mais il est capable de faire quelque chose comme ça. S'il est encadré, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire de mieux? Vous trouvez des bien gens qui vous fabriquent là, des mabolas et tout ça, quand nous sommes en train de parler de la protection de l'environnement. Vous voulez que les gens puissent aller couper les bois, les arbres et tout ça, mais des mabolas, on met de la poussière, des quoi ça, des planches, et c'est fini, ça suffit pour la cuisson, les anodires, dans les ménages et tout ça. Vous trouvez beaucoup d'initiatives de jeunes gens, même des artistes, qui sont en train de vous faire des belles histoires en bois ou en, je ne sais pas en quelle matière, mais ils sont abandonnés à eux-mêmes. Mais s'il n'y a pas une politique d'encadrement ou d'encouragement de l'initiative locale, mais vous trouverez que tout ce qui est à l'extérieur est réel. Ou peut-être que c'est même l'intérieur à ce qu'on vous propose à l'intérieur. Mais qu'on encadre, qu'on ait une politique d'encouragement. Mais ici, même les banques, ils ne donnent pas cette possibilité-là d'aider des gens qui veulent entreprendre quelque chose. Et l'État lui-même, n'en parlons pas. Mais même ceux qui pillent l'argent de la République, mais on ne sait pas ce qu'ils en font. Ils ne sont pas là en train de créer des histoires qui peuvent aider les autres à avoir du travail et qui peuvent aussi produire de l'argent pour eux-mêmes. Mais ils ne puissent que dans la caisse de l'État. Mais cette façon de vivre, ça ne peut pas nous amener au développement. C'est ça que moi j'ai demandé. Pourquoi alors on devait chercher l'indépendance, chasser les Belges de façon brutale, alors que nous avions encore besoin de beaucoup d'expertise à l'extérieur? C'est ça mon problème.
Merci beaucoup, Félicien. Vous estimez que 56 ans après, quand de l'or que quelqu'un n'a pas encore résolu le problème de besoins sociaux des bases, mais à mesure déjà de pouvoir inventer, de pouvoir innover dans la technologie, il serait mieux de pouvoir soutenir cela. Je crois bien, Rudy est avec nous. Rudy, vous êtes avec nous en direct, Rudy.
Oui, je suis en direct.
On vous écoute. Vous avez dit sur notre page Facebook qu'avec le problème de mentalité, il serait mieux de recourir à l'expertise locale que pouvoir faire des preuves, la société qui a fait des preuves ailleurs continue de notre manière. Et puis, vous venez développer cela maintenant.
Ok. Le problème d'abord, c'est, si je parlais de la mentalité, c'est que j'ai constaté ici à Lubumbashi. Nombre de chauffeurs est d'abord ici le roulage, et puis ils ne respectent pas l'alignement dans les arrêts de bus. Voilà pourquoi j'ai fait allusion à la mentalité congolaise.
Mm-hmm.
Compte tenu des mentalités sud-africaines, bon, ça sont des pays, quand même, que je peux dire, des pays développés, la Belgique et la France. Alors, j'ai fait allusion aussi à ce qui a été fait en RDC ici, le robot intelligent. Pourquoi ne pas encourager cette expertise locale pour enfin produire d'abord ces robots intelligents? Et ils ont dit quoi? Ces groupes-là, des dames ingénieurs qui ont été formées à l'ISTA, elles ont dit qu'elles attendaient le financement de la part du gouvernement pour pouvoir fabriquer autant de robots.
Rudy, gardez la ligne, nous revenons à vous, juste après les flashs d'information et aussi notre invité, on va revenir à vous tout de suite après.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
On se retrouve pour cette dernière partie des paroles aux auditeurs. Rudy, vous êtes à Lubumbashi. Avant le flash d'information, vous étiez en train d'insister sur l'importance de pouvoir soutenir l'initiative locale, Rudy. Vous êtes avec nous.
Oui, monsieur Gilles, je disais ceci, il faut encourager l'expertise locale. Pourquoi? Une fois l'expertise locale est encouragée, vous allez voir que non pas l'expertise locale va se limiter à ce qu'elle a pu faire, mais elle va aussi développer l'intelligence parce qu'elle aura les moyens, elle va aussi développer l'intelligence pour faire d'autres choses. Concernant le robot intelligent, monsieur Gilles, ce robot dispose des caméras de surveillance, il fonctionne grâce à l'énergie solaire, il est doté d'une capacité de stocker les données pendant 6 mois. Ici, si on va à l'Afrique du Sud pour demander l'expertise sud-africaine, mais c'est un problème de logiciel. Les dames-là, elles, qui ont pu mettre... Allô?
Oui, allez-y, vous êtes sur les antennes.
Ok. Les dames-là qui ont pu mettre le robot... Pu faire le robot intelligent. Ils ne peuvent pas créer un logiciel pour surveiller, pour parvenir aux besoins du ministère des Transports, c'est-à-dire prendre l'expertise l'expertise étrangère.
Ça revenait peut-être au ministère de pouvoir discuter avec la société, hein, madame, je crois bien, c'est madame Marie-Thérèse, je crois bien que vous vous dites, elle pourrait discuter avec le gouvernement pour dire, voilà, vous auriez souhaité que le gouvernement présente à cette société l'état des besoins pour dire, voilà, le type du travail que nous on attend de vous, voilà, le type de logiciels que nous on a besoin, si vous en avez, nous pouvons travailler en collaboration, peut-être que c'est là peut-être à plus manquer, on ne sait pas, on pourra voir dans les prochaines émissions, si jamais c'est possible de pouvoir évoquer encore cette question. Merci beaucoup, Rudy, de tous ces témoignages dans sa parole aux auditeurs. On retourne ici à Kinshasa, Maître Omar, bonjour.
Bonjour, très cher Pierreux Lamégie, bonjour aussi à Nico Kalambal qui réalise l'émission.
Et on vous écoute, Maître Omar.
Rapidement, puisque le temps fait défaut, Pierreux Lamégie, je pense que de ces débats et de ces partenariats signés le 6 août, une qui voudrait qu'on puisse améliorer les secteurs routiers et une autre qui voudrait qu'on encourage l'initiative locale. Moi, je pense qu'au nom du réalisme économique, il n'est pas mauvais de signer des partenariats avec les étrangers pour améliorer les secteurs économiques. Tel est d'ailleurs le rôle entrepreneur de l'État. Mais il faudra aussi soutenir l'initiative locale. Comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas de développement en production interne, ni encore moins la création de classes moyennes sans soutenir l'entrepreneur local. Mon joli bureau, pour rapidement finir, s'il m'était demandé de choisir une thèse, il choisirait la deuxième thèse qui veut qu'on soutienne l'économie locale.
Mmh.
Comme là vous l'a dit ici présent, qu'est-ce que le réalisme économique? On doit recourir à l'expertise étrangère lorsqu'au niveau local rien n'est fait. Mais au niveau interne, il y a des bonnes initiatives. Je vais être diversifié. Au niveau du sport, on a pris Henri de Purée, on a pris Claude Leroy, nous n'avons rien fait. Avec Florent Ibengue et Watunda, on a été troisième à la CAN et on a remporté Chan avec Ibengue et Santos Mutubile. Aujourd'hui, il y a le robot roulage. Ce n'est pas le gouvernement qui a soutenu. C'est RTL, une entreprise de la place, excusez-moi de citer les termes. Il y a le MPSA de Mobile Betting. Ce sont des Congolais qui l'ont créé. Il y a un petit qui a été encouragé par les ministres de l'Industrie, qui a créé un iPad congolais. On ne connaît même pas son nom. L'autre est mort, le pharmacien congolais Tondel avec Miami Singh et Stumi. On ne parle pas de lui. Aujourd'hui, on fait la publicité de ATTM. L'entrepreneuriat, bureau, est une culture. Nous ne refusons pas qu'il y ait l'expertise étrangère, mais elle ne peut intervenir que si au niveau local rien n'est fait, alors qu'au niveau local, on a beaucoup de compétences.
Merci.
Je suis parti de ce Congolais, bureau, pardon. Il faut que le gouvernement ne finisse pas prendre des lois. Si vous avez le code du travail, le code de l'entrepreneuriat, on veut qu'on puisse soutenir l'initiative locale. Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas se limiter à dire au niveau des lois, on doit soutenir. Mais nous aussi, entrepreneurs locaux congolais, on doit savoir que le monde aujourd'hui est mondialisé, ils sont très compétitifs. À part ce que doit faire le gouvernement, on doit se former, on doit avoir des initiatives et des cultures.
Et même parce que vous avez évoqué la formation, Maître Omar, c'est ce que notre invité, Ricardo Kalema, disait tout à l'heure. On écoute rapidement Maître Sonville, qui est à Lubumbashi, parce que là, on doit chuter et permettre à notre invité de conclure cet échange. Maître, bonjour.
Oui, alors, bonjour, monsieur Pierrot, bonjour à tous les membres de Radio Okapi, bonjour aussi à votre invité.
Et comment arriver alors à promouvoir l'entrepreneuriat local dans ces débats?
Il faudrait que l'État congolais puisse les locaux, puisque monsieur Pierrot, du temps de la GECAMI, du temps de la SPC, du temps de la MIBA, ceux-là qui étaient fournisseurs à la GECAMI étaient des locaux. Et à ce moment-là, il y avait une classe moyenne qui existait. Si maintenant nous recourons toujours aux expatriés, il n'y aura jamais de classe moyenne. Or, l'État est dans l'obligation de soutenir les Congolais afin de créer cette classe moyenne. Malheureusement, lorsqu'il y a de l'argent pour soutenir les classes moyennes, ce sont les autorités qui prennent cet argent. On a vécu l'exemple des FPI, les fonds de promotion de l'industrie. Au lieu de soutenir les petites et moyennes entreprises, il y a eu de grands calibres de ce pays qui ont pris l'argent pour ne rien faire avec cet argent. Au moment où il fallait créer peut-être des sociétés coopératives, là où n'importe qui peut avoir accès, avec un petit lien et avec le soutien du gouvernement, ça peut aller de l'avant. Aujourd'hui, nous vivons les mamans maraîchères, nous vivons la carence des denrées alimentaires des fonds de nécessité. Or, si on soutenait les sociétés coopératives agricoles, ça pouvait faire quelque chose. Mais je ne comprends absolument rien. Pourquoi on fait toujours recours à l'expertise étrangère? Or, les ressources humaines ne manquent jamais au Congo. Si vous allez en Afrique du Sud, les grands experts sont des Congolais. Il suffit seulement d'améliorer l'encadrement de cette jeunesse-là.
Mm-hmm.
Et cette jeunesse sera responsable pour s'assumer. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons le chômage. Si je reviens encore à la SNCC, à la Cigaraï, Nous avons des entrepreneurs. Ceux-là qui s'occupaient de la manutention, qui étaient des gens sur place. Ceux-là qui s'occupaient d'autres travaux, au niveau même des ateliers centraux, étaient des Congolais. Et les Congolais sont là. Ceux-là qui ont produit des trous ici au niveau de l'Ombassane, ce sont des Congolais. Il manque un encadrement. Et s'il y a l'argent pour soutenir les Congolais, ce sont les Ndekoya, les népotismes, les clientélismes. L'argent n'est pas bien géré. L'argent n'est pas une bonne destination. C'est pour cela que peut-être le gouvernement n'est pas seulement rien par rapport à l'appui au succès des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs congolais. Ici aussi au Katanga, nous avons beaucoup de petites et moyennes entreprises, mais qui sont sans soutien. Aujourd'hui, chaque année, nous sortons des universitaires, des diplômés, mais si on ne soutient pas, nous devons d'autres. Et quoi bon, à quoi bon maintenant amener nos enfants à l'université? Puisque nous savons que juste après l'université, les enfants ne travailleront jamais, ils n'auront jamais de soutien de l'État congolais. Mais nous devons changer le discours.
Merci beaucoup, l'État congolais doit améliorer, c'est dans le cadre du soutien à l'entrepreneuriat local. Et vous avez évoqué le rôle de FPI. On a eu plusieurs débats dans cette émission, de la manière dont le Fonds de promotion de l'industrie a pu octroyer des capitaux aux uns et aux autres, hein, qui en réalité n'ont pas porté des fruits sur le terrain. Vous avez parlé ici de le soutien aux coopératives agricoles. Rappelons quand même qu'on a eu plusieurs fois dans les débats de la parole aux auditeurs où les gens ont estimé qu'au lieu de soutenir les coopératives agricoles, l'État a pu investir dans les projets du parc de Bougangalonzo où les auditeurs disaient qu'il n'y avait pas eu des résultats. Voilà autant de questions. Vous avez été nombreux, Maître Adrien et les autres. On n'a pas eu la possibilité de vous faire intervenir. Vous étiez nombreux aujourd'hui. On revient à vous, Ricardo Cagnama. On est avec vous pour conclure cet échange. Vous êtes avec nous encore sur les antennes.
Oui, je suis avec vous, M. Théo.
Vous avez suivi les uns et les autres abondamment. Les gens sont revenus sur les projets robots intelligents parce que nous avons parlé de la sécurité routière, mais il n'y a pas seulement ça. Dans d'autres domaines aussi, les gens ont pu évoquer dans les domaines agricoles. Alors, et vous avez pensé aussi qu'il y a un problème de formation. Il y a aussi la manière de présenter les projets pour qu'ils soient vraiment un projet bancable. Mais est-ce qu'il y a des structures aujourd'hui, en bref, qui encadrent les entrepreneurs en RDC? De quelle manière ils peuvent présenter leurs projets? De quelle manière ils peuvent négocier aussi le marché rapidement? Et vous profitez pour conclure cette émission dans deux minutes.
Oui, absolument. Il y a beaucoup de structures qui travaillent pour encadrer les entrepreneurs. Comment préparer des projets, comment défendre des projets. Il y a beaucoup de soucis dans ce sens-là. Mais moi, j'ai toujours parlé du sens de former l'entrepreneur. Vous savez, il y a des lois externes de la richesse et des lois internes. Les lois externes, c'est l'étude des marchés, présentation des projets et tout. Mais les lois internes, il faut former un entrepreneur. Un entrepreneur, on le forme comme on forme un médecin. Mais seulement, il n'y a pas des universités qui forment des hommes d'affaires. J'ai suivi même beaucoup d'interventions, des gens qui ont dit qu'il existait déjà des entrepreneurs depuis 1960. C'est que les études, vous allez voir que les entrepreneurs qui existaient étaient nos mamans et nos papas qui n'avaient pas étudié. Mais notre société maintenant est entre les mains des universitaires. Et les universitaires, eux, n'ont pas étudié l'entrepreneuriat ou les affaires. Ils ont étudié leurs professions diverses. Et c'est eux, je ne sais pas si vous connaissez des universitaires, même des professeurs d'université en économie, qui ont tenu une boutique et qui ont fait une boutique, par exemple, une grande entreprise. Parce que ce sont deux choses différentes. Alors, lorsque nous reconnaissons la nécessité de promouvoir l'entrepreneuriat local, nous devons aussi comprendre la nécessité d'investir dans la formation, parce que la formation, c'est le secret qui permet à l'entrepreneur de réussir et d'aller de l'avant. Comme ça, nous allons et l'entrepreneur peut créer des emplois et créer des richesses pour les pays.
Et là, en bref, la responsabilité de l'État dans l'accompagnement de ces initiatives.
Oui, l'État a sa responsabilité, il doit accompagner ses initiatives, mais aussi la population doit prendre des initiatives de formation, pas seulement des programmes de formation. Notre population ne veut pas se former, notre population cherche seulement des titres. Même les universitaires dont nous disons, vous allez voir qu'il a fait 6 et 5 ans de cursus universitaire, il n'a jamais lu un livre dans son domaine, et il finit après les études 10 ans, après il n'a jamais lu un livre dans son domaine. Donc les gens sont sous-cultivés. Les gens ont des titres universitaires, mais n'ont pas toujours la formation nécessaire pour réussir dans la vie. Et il est temps aujourd'hui que nous puissions commencer à nous intéresser à la formation pour réussir dans la vie. Okay. Et non seulement à ces titres universitaires, parce que c'est inefficace.
Merci beaucoup. Vous avez été nombreux à nous accompagner dans cet échange. Merci particulièrement aussi au professeur Bob Kirongozi qui nous a parlé du projet robot intelligent avec beaucoup de précisions. Merci à Nico Kalamba qui fait la réalisation et au standard de ces magazines mis en onde par Mimi Kindou. Pierrot et la Meiji vous l'a présenté sous la supervision de Julien Inamouini. On se retrouve demain. Nous allons parler du projet de loi portant promotion et protection des personnes vivant avec handicap en RDC. On se retrouve demain à 11h03 heure de Kinshasa pour un autre numéro des paroles aux éditeurs. D'ici là, portez-vous bien chez vous et surtout bonne journée en compagnie de Radio Okapi. Au revoir. Thank you.